France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Les États-Unis sont en train de fermer le plus long shutdown de leur histoire. L'économie va souffler un peu. La corde était très tendue, mais comment va-t-elle cette économie américaine? C'est là-dessus que Trump a été élu. Que dit l'inflation? Que dit l'emploi? Est-ce que les droits de douane ont plombé les ménages ou l'inverse? Nous le verrons avec notre invité. C'est le sparadrap qui colle aux doigts de l'Ukraine. La corruption freine toujours ce pays et c'est le monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage d'un jour dans le monde est en Autriche, championne d'Europe de l'agriculture bio, mais en plein doute, en train d'interroger même son modèle.
Plus d'un quart de nos revenus proviennent des aides. Moi, je ne pourrais pas m'en sortir sans subvention aujourd'hui. Ce serait bien si cela était possible, car on est devenu dépendant.
Isorias vous en dira plus autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Auda a trouvé 20 médaillés olympiques internationaux qui demandent la grâce d'un boxeur condamné à mort dans son pays, l'Iran. Et puis Caroline, au pays des 27, ouvre une porte de l'Europe qui va vous aider à tout comprendre de la diplomatie informelle. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. On y va ?
The ayes are 60, the nays are 40. The bill as amended is passed.
Ça se passe au Sénat, donc c'était tout à l'heure. Demain, on attend la Chambre des représentants. C'est à ce moment-là qu'on acte, pour ce qui est du Sénat, en tout cas la fin du shutdown. Bonsoir Laurence Lardon.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme États-Unis à l'IFRI. On rejoindra Franck Madvon dans un petit instant, notre correspondant permanent à Washington. Dites-nous, Laurence Lardon, d'abord, comment on en sort finalement du shutdown? Le Sénat, donc on l'a vu, dit oui, avec 8 démocrates. La Chambre, ce sera demain. Le déblocage, il est dû à quoi? Est-ce que c'est juste 8 démocrates qui lâchent? C'est oui. À ça que ça tient ?
En réalité, donc il leur fallait 60 voix pour que ça passe au Sénat à cause de cette procédure d'obstruction qui s'appelle le filibuster. Mm-hmm. Ils n'avaient que 52 voix côté républicain, donc 8 sénateurs démocrates sont venus faire le bon compte, faire monter jusqu'à 60 voix. Et pour le Parti démocrate, c'est vraiment... c'est vraiment stupéfiant ce qui s'est passé. Ces 8 démocrates ont, en réalité... scier en premier, cligner des yeux en premier, comme dans les duels de cow-boys qu'on a dans notre imaginaire, parce que les explications qu'ils fournissent pour avoir rejoint le camp des républicains, c'est que ils ont eu l'intime conviction que jamais les républicains ne céderaient sur ce qui était la demande des démocrates depuis le début du shutdown, c'est-à-dire la prorogation des aides de l'État pour l'assurance santé des ménages américains.
Et en même temps, ils se trompent, non? Parce que c'est ça qui est très étonnant. La séquence, c'était Donald Trump qui sort de 3 élections perdues lourdement. La mairie de New York, les gouverneurs au New Jersey et en Virginie, donc le mojo, si on veut, est totalement dans l'autre sens. Donc est-ce qu'on pouvait pas se dire que oui, les démocrates, les républicains, en fait, allaient scier et baisser les yeux?
C'est ce que... on n'a pas de boule de cristal, mais c'est ce qu'on pouvait vraiment penser, d'autant plus que, d'ici quelques semaines, les Américains vont commencer à s'inscrire et payer les premières mensualités pour leur assurance santé à partir de 2026. Et pour certains ménages, donc l'assurance santé, c'est à la fois notre sécu et notre mutuelle additionnée. Et on sait que ça coûte très cher aux États-Unis. Il y avait des subventions qui existaient depuis le Covid, votées sous Biden, mais qui se terminent au 31 décembre. Et donc, à partir de janvier, certaines familles vont voir leur mensualité tripler ou quadrupler. Ça va être un choc terrible. Et les démocrates pouvaient absolument tabler là-dessus pour montrer à leur électorat, à l'électorat en général, que Trump n'est pas leur ami.
Alors, on va y aller justement, est-ce qu'il est leur ami ou pas, et comment va leur économie? Un dernier mot là-dessus quand même, ça veut surtout dire que les démocrates, au fond, n'ont toujours pas tranché. Ils ne savent pas s'ils veulent être modérés et gagner sur leur modération, s'ils veulent durcir le discours. C'est sur un discours durci qu'ils ont gagné à New York, c'est sur un discours modéré qu'ils ont gagné notamment en Virginie et dans le New Jersey. Donc en fait, ils ne savent toujours pas sur quel pied danser.
Oui, absolument. Les démocrates sont un pays qui, sont un parti qui, s'il était en France, aurait déjà explosé en au moins deux partis, le modéré et le radical. Dans le système américain, c'est pas possible. Ils sont complètement coincés entre ces deux ailes irréconciliables. Puis en plus, je crois qu'il y a un problème de génération, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de postes importants sont tenus par des anciens qui sont donc plutôt des modérés, bon, à part Bernie Sanders, mais on va le laisser. Mais
surtout chez les sénateurs, là, pour le coup.
Oui, absolument. C'est un parti qui, en fait, depuis Obama, a un vrai problème de renouvellement des générations.
Alors, justement, quand le shutdown sera fini, si on veut, on va regarder ce qui se passe derrière et comment ça marche. Est-ce qu'on a durablement abîmé l'économie d'ailleurs, d'abord avec un shutdown qui dure plus de 30 jours ou pas ?
Alors, historiquement, les shutdowns donnent lieu à une baisse de consommation des ménages, enfin à une certaine inquiétude. Mais ce qu'on a observé dans les shutdowns précédents, c'est que l'économie récupère en général assez vite. Les gens qui ont suspendu un achat, en fait, achètent les choses après. D'autant plus que là, on va rentrer dans la séquence de consommation délirante.
On va rentrer dans Thanksgiving, ouais.
Thanksgiving et ensuite Noël. Donc, bon, alors celui-là était particulièrement long, on va voir, mais je pense que l'économie va se remettre assez vite de ce shutdown.
L'une des conséquences du shutdown, c'est aussi qu'on n'a pas les chiffres les plus récents en termes de croissance, en termes d'emploi, en termes d'inflation, mais on a quand même les chiffres précédents. Et ce qu'il nous disait, notamment sur l'inflation, qui est vraiment la raison pour laquelle Trump a été élu au final, lui nous disait on va terminer tout ça, aujourd'hui on est à 3%, on est en train de monter. Est-ce qu'on peut dire que l'inflation a redémarré aujourd'hui aux États-Unis ?
Alors, 3%, c'est trop sans doute pour les consommateurs américains, mais c'est pas les 9% qu'on a eu à un moment sous Biden.
C'était la période post-Covid, absolument. Ouais.
Donc ces chiffres sont, même le taux de non-emploi est à 4-3%. Enfin bon, les chiffres ne sont pas très catastrophiques pour l'instant. À mon avis, l'indicateur qu'il faut regarder aujourd'hui, parce qu'il est vraiment très mauvais pour Trump, c'est l'indice de confiance des ménages. Qui, en moyenne, est mesuré par l'Université du Michigan depuis des décennies. En moyenne, il est à 85 points. Ce n'est pas des pourcentages, c'est un système de points. Aujourd'hui, il est à 50, qui est le chiffre le plus bas que cet indice ait jamais connu. La dernière fois qu'on a été à 50, c'était précisément lorsque l'inflation était à 9% sous Biden. Donc, la confiance des ménages est au plus bas aujourd'hui. C'est lié au shutdown, donc ça peut rebondir. Mais pour Trump, c'est très inquiétant. Hein. C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle les démocrates auraient dû tenir bon dans ce shutdown, à mon avis.
Alors, manque de confiance des ménages, ça veut dire aussi manque de confiance des entreprises. Il peut y avoir aussi un effet boule de neige. Je voudrais qu'on retrouve Franck Madvon, justement. Bonsoir, Franck.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous.
Parce que vous les avez rencontrés, évidemment, ces électeurs américains, lors des derniers votes, mais pas seulement. Est-ce que vous l'avez entendu, ça, le manque de confiance et le coût de la vie nous plombe, en fait ?
Oui, alors pour être honnête, j'ai même pas besoin de rencontrer des électeurs, il suffit d'aller au supermarché, regarder la note à la caisse. Hein. Le coût de la vie, c'est évidemment un problème majeur aujourd'hui aux États-Unis. L'inflation est à 3%, vous le disiez. C'est pas négligeable tout de même. Hein. Et les Américains ne voient pas du tout les prix baisser. La viande, notamment le bœuf, le café, certains fruits et légumes coûtent de plus en plus cher. J'étais la semaine dernière à New York pour l'élection du nouveau maire Zoran Mamdani. Il a fait campagne, vous le savez, sur le coût de la vie, gratuité des bus, des crèches, encadrement des loyers. Et ce message a fait mouche, clairement. Alors New York, c'est un cas particulier, mais si vous regardez les autres élections, notamment pour les postes de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey, les démocrates ont gagné avec une énorme marge, entre 13 et 15%, et les sondages de sortie des urnes ont montré que la principale préoccupation des électeurs était le coût de la vie.
Est-ce que, Franck, les gens font un lien entre le coût de la vie et le bouleversement des droits de douane, ou pas ?
Alors, le lien, il est pas toujours évident. Les droits de douane ont été en partie absorbés. Les entreprises avaient fait des stocks, elles rognent sur leurs marges. Mais j'ai rencontré par exemple des agriculteurs dans le Minnesota. Eux, ils sont confrontés au prix trop bas de certains produits, dont le soja. C'est une conséquence indirecte des droits de douane déjà. Et ils parlent aussi de l'augmentation du coût des équipements en raison des taxes sur les importations canadiennes. Donc ces droits de douane, oui, sont parfois associés à l'inflation. Mais surtout, il y a ce sentiment général d'une incertitude autour des droits de douane. Les investisseurs, les entreprises ne sont pas rassurés. Les taxes aux importations changent bien souvent du jour au lendemain. Voilà, pour le moment, la bourse fait confiance à Trump, mais les Américains ne voient pas les prix baisser.
Une dernière question rapidement, Franck. On la sent, la fébrilité des Américains et même de l'administration américaine, en fait, voire la panique. Il y a eu cette fameuse promesse d'un chèque de 2 000 $ à tout le monde. Enfin, ça dit, attendez, ne paniquez pas, on va vous donner de l'argent. C'est quand même une drôle de méthode, non ?
Trump, de toute façon, parle du pouvoir d'achat tous les jours maintenant, depuis une semaine. Il multiplie les interventions à ce sujet et le message, c'est « Sous Biden, c'était une catastrophe, avec moi, tout va bien ». Et il y a donc une série de mesures qu'il propose. Alors, la plus spectaculaire, c'est vrai, c'est ce chèque de 2 000 $ proposé dimanche, un chèque pour tous les Américains, sauf les plus riches, financés par les droits de douane. le ministre des Finances, Scott Bessent, a tout de même très vite précisé qu'un tel dividende, comme l'appelle Trump, pouvait prendre la forme de cadeaux fiscaux déjà accordés. Le président américain, il a aussi suggéré des crédits immobiliers sur 50 ans. C'est une idée critiquée au sein même de son propre camp. Voilà, en tout cas, Donald Trump s'agite beaucoup sur ce sujet du pouvoir d'achat. Il lui reste moins d'un an avant les élections de mi-mandat pour convaincre les Américains qu'il a amélioré leur pouvoir d'achat.
Merci beaucoup, Franck Madvon. Laurence Nardon, j'entends incertitude. On regarde le marché de l'emploi, par exemple, vous le disiez, il reste très bas, surtout si on le compare au nôtre. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a moins de création d'emplois. Donc ça dit aussi incertitude et frilosité peut-être de la part des entreprises. Est-ce que ça parle, au fond, d'une économie qui ne va pas mal, Franck Madvon l'a dit, Wall Street va bien, par ailleurs, mais qui ralentit, finalement.
Alors justement, oui, alors il y a peut-être effectivement un ralentissement, mais comme il va se fondre dans le gros ralentissement du shutdown, le redémarrage lié à la fin du shutdown...
Surtout la narrative est déjà tout trouvée, en fait.
Oui, exactement. Non, mais ce que je voudrais pointer, justement, vous parlez d'incertitude, du rôle des entreprises, etc. En fait, en réalité... L'éléphant dans la pièce, si je puis me permettre, c'est la possibilité, dans les mois qui viennent, de l'éclatement de la bulle de l'IA. Et ça, c'est parce qu'il y a énormément de start-up ou d'entreprises d'IA qui sont valorisées mais à des
trucs. Et on les a vus balancer les milliards, les géants de la tech.
Alors que derrière, il n'y a pas grand-chose. Et ça va être un peu comme les tulipes ou comme la bulle Internet, etc. Enfin, il y a beaucoup d'observateurs financiers qui pensent que l'éclatement de cette bulle est tout à fait possible dans les mois qui viennent. Et ça, pour le coup, ce serait une catastrophe pour Donald Trump.
Une toute dernière question, rapidement, Laurence Nardon, si demain la Cour suprême, puisque c'est dans l'air, on verra bien, supprime les droits de douane de Donald Trump. Il faut expliquer très rapidement que ce qu'on supprime, c'est ce qui était directement lié au pays, en fait, pas au produit, mais au pays. Si demain la Cour suprême dit ça, c'est pas constitutionnel, ça fait tomber l'édifice économique ou pas ?
Ah oui, c'est en tout cas, ce serait un... Ce serait un coup porté à cette grande politique de tarifs douaniers que Trump a mise en place déjà en 2018 et à nouveau maintenant. Donc, vous le dites bien, c'est sur les pays, c'est pas sur les produits. Ouais. Mais ce serait, de la part de cette Cour suprême qui est censée être dans la poche du président, un camouflet déjà... presque psychologique pour lui, enfin en tout cas pour son image, et puis en effet aussi pour sa politique économique, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, il ne pourrait plus la mener comme il a décidé de le faire. Ce serait... il serait pas très content.
il le dit quand il n'est pas content. Laurence Nardon, merci beaucoup. Vous êtes responsable du programme États-Unis. Ali Free, revenez quand vous voulez. Merci aussi à Franck Madvon. La suite ce soir, c'est le monde à l'endroit et c'est vous, Louise Baudet.
Et on s'intéresse au dessous d'une affaire de corruption qui touche de très près le président ukrainien et embarrasse ses soutiens européens.
Et c'est juste après ça. Susan Tarabit. Ce sont des Indonésiens. Le morceau s'appelle Tamat et c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et Louise, vous nous expliquez pourquoi l'Europe regarde de très près la vaste opération anticorruption menée dans le secteur énergétique ukrainien.
Nom de code, Midas Tapes. 15 mois d'enquête, 70 perquisitions, 1000 heures d'enregistrement audio qui prouvent que des sous-traitants de l'entreprise publique du nucléaire, le géant Energoatom, ont été contraints de verser des pots de vin pour éviter de perdre leur statut de fournisseur. Système criminel de corruption et de blanchiment d'argent mis au jour par le Bureau national anticorruption ukrainien. Et affaire d'autant plus explosive qu'elle touche un secteur stratégique. La Russie pilonne les infrastructures énergétiques ukrainiennes alors que le pays est entré dans l'hiver. Les 100 millions de dollars détournés dans l'affaire sont d'autant plus choquants pour une population frappée par les coupures de courant et profondément attachée à la lutte anticorruption. Près de 80% des Ukrainiens considèrent ce problème comme le plus important après l'agression militaire russe.
Or, ce nouveau scandale, Louise, touche de près des proches de Volodymyr Zelensky.
Alors officiellement, aucun nom ne filtre, mais plusieurs médias ukrainiens annoncent des perquisitions au domicile de l'actuel ministre de la Justice et ancien ministre de l'Énergie. Également visé, un homme clé dans l'ascension du président ukrainien Timur Mindich, copropriétaire de la société de production fondée par Zelensky, Kvartal 95, société déjà au cœur d'un scandale d'évasion fiscale révélé par les Pandora Papers il y a 4 ans. Timur Mindich qui a fui à l'étranger quelques heures seulement avant l'arrivée des enquêteurs. Alors, vous Volodymyr Zelensky déclare que la lutte contre la corruption est absolument nécessaire. Il appelle à coopérer avec les enquêteurs et réclame des sanctions. Mais les ONG anticorruption se méfient et exigent la suspension immédiate des personnes impliquées.
Et la lutte contre la corruption, elle va de soi en Ukraine ou pas ?
Pas vraiment. Rappelez-vous, les agences anticorruption du pays ont bien failli être mises au pas cet été. Accusées d'être sous influence russe, placées sous la tutelle directe du procureur général ukrainien, lui-même nommé par le président. Cette loi, promulguée en juillet dernier, a été immédiatement contestée dans la rue. Première manifestation en Ukraine depuis l'invasion russe. Et les partenaires européens de Kiev ont également mis la pression. Résultat, Zelensky a reculé. La loi a été suspendue, mais la tension n'est pas retombée. Les ONG dénoncent un travail de sape qui met sous pression les enquêteurs et les dénigre aux yeux de l'opinion publique.
Et tout ça, bien sûr, sous le regard attentif de l'Union européenne.
Et oui, la lutte contre la corruption endémique dans de nombreux pays de l'ancien bloc soviétique. Cette lutte anticorruption est un jalon fondamental dans le long chemin vers l'adhésion au club européen. Et le travail des agences anticorruption créées dans la foulée de la révolution de Maïdan en 2014 est considéré comme essentiel à Bruxelles. Bruxelles, où la Commission a présenté la semaine dernière son rapport annuel sur l'élargissement, sorte de bulletin de notes des pays candidats à l'entrée dans l'UE. L'Ukraine y est félicitée pour avoir fait progresser des réformes clés. Une réunion des ministres des Affaires européenne des 27 est même prévue à Lviv le 10 décembre prochain. Sommet informel dans la grande ville de l'ouest de l'Ukraine pour montrer que l'avenir du pays se joue au sein de l'Union européenne. Les Midas Tapes pourraient quelque peu casser l'ambiance.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde qui nous emmène ce soir en Autriche, championne d'Europe de l'agriculture biologique. Alors que l'Union européenne s'est fixée pour objectif d'atteindre 25% de ses terres agricoles cultivées en bio d'ici à 2030, en Autriche on est déjà à 27%. Mais voilà que, quand même, dans ce pays qui se veut un modèle, la filière bio s'inquiète pour son avenir. Et le reste, c'est Isorias qui raconte.
Zeham est un petit village de 2000 habitants situé à l'ouest de l'Autriche, un village pionnier où 80% des agriculteurs cultivent aujourd'hui en bio. C'est le cas d'Andreas et Sylvia. Ils exploitent 40 hectares et ont 38 vaches laitières ainsi que 35 veaux et génisses car ils font du lait de foin bio.
Ça signifie que le foin est séché au soleil de manière entièrement naturelle comme cela se faisait il y a des siècles. Et ça veut dire qu'en été, les vaches ont toujours de l'herbe fraîche, on en ramasse 2 à 3 fois par jour et en hiver, elles ne mangent que du foin.
Ils produisent environ 230 000 kilos de lait par an et vendent actuellement 1 litre de lait de foin bio 79 centimes. C'est le tarif dit gold standard qui est à la fois le plus avantageux mais aussi celui qui impose le plus de contraintes, notamment celle de devoir acheter en Autriche les produits nécessaires, les céréales ou le bois par exemple. Pour Andreas, 79 centimes est un prix convenable, mais qui n'explique pas à lui seul que son exploitation soit viable.
Il ne faut pas perdre de vue certains éléments. Ces dernières années, tout est devenu plus cher, c'est fou. L'assurance nous annonce par exemple un ajustement de l'indice de 3 ou 4%. Dans ce cas, il importe peu que le prix du lait augmente ou diminue. Et mon lait ne se vendra pas toujours à un prix aussi élevé. Les subventions sont tout simplement essentielles pour une exploitation bio. Plus d'un quart de nos revenus proviennent des aides. Moi, je ne pourrais pas m'en sortir sans subventions aujourd'hui. Ce serait bien si cela était possible, car on est devenu dépendant.
Si l'Autriche est championne d'Europe du bio, c'est parce que le pays a, dès les années 80, mis en place un cadre légal et des aides pour l'agriculture biologique. Un autre facteur a été le rôle des supermarchés qui ont tous créé leur propre marque bio dès les années 90. Véritable clé du succès, mais aussi une des limites aujourd'hui, puisque les supermarchés dominent le marché du bio et ont donc un pouvoir important sur les prix. Nicole Bergmann représente la marque Spar en Autriche.
Nous avons commencé en 1995 avec seulement 5 produits laitiers et aujourd'hui, nous avons 2500 produits bio dans notre offre. Si vous souhaitez vous nourrir exclusivement de produits bio, vous pouvez le faire en Autriche. En tant que commerçant, nous devons toujours nous efforcer d'offrir aux consommateurs les prix les plus bas possibles. Et les producteurs veulent toujours vendre leurs produits au prix le plus élevé possible. C'est pourquoi il y a toujours beaucoup de débats et de négociations à ce sujet.
Reste qu'aujourd'hui, le nombre d'exploitations bio recule en Autriche, moins 2% chaque année environ, montrant les défis structurels auxquels l'agriculture bio doit faire face ici comme ailleurs en Europe, explique Susanne Mayer, directrice de Bio Austria, l'association rassemblant les agriculteurs bio autrichiens.
Nous avons évolué année après année vers une situation où on dépense moins pour l'alimentation et davantage pour d'autres choses. Et cela a bien sûr pour conséquence que les revenus des agriculteurs n'augmentent pas et que les difficultés dans les exploitations s'aggravent. Nous avons besoin de meilleurs prix sur le marché, de meilleures subventions et d'une plus grande différence par rapport aux produits conventionnels afin que le biologique soit plus attractif. Car la transformation de l'agriculture est nécessaire.
Et ce qui manque selon elle aujourd'hui, c'est une vision et une politique à long terme pour assurer l'avenir d'une agriculture durable.
Isorias pour le reportage, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est ce que Guillaume Audat a trouvé sous les radars.
Sous les radars et à l'intérieur de vos téléphones pour vous espionner. Pegasus est de retour sous pavillon américain.
Et Caroline au pays des 27 avec vous, Caroline Gillet.
Le saviez-vous, certaines décisions européennes sont prises par des fonctionnaires nus dans des saunas.
Voilà, on a trop hâte. Vraiment, restez avec nous les amis, le tour de la planète continue. Il passe par l'Algérie mais aussi la France où Souad Massi est installé depuis les années noires. Souad Massi et Raoui, elle a plus de 20 ans, dites donc cette chanson.
يا راوي احكي حكايه ماذا بيك تكون روايه احكي لي على ناس زمان احكي لي على الف ليله وليله ولا لون جا بنت الغوله ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمرو ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكاو لك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفاو على بالك نحكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
D'après une ride, le Raoui de Souad Massi dans Un jour dans le monde. Sous les radars, qu'est-ce qu'on trouve ? Guillaume Audin.
Meanwhile, Iran has drawn criticism from human rights groups from around the world over its decision to execute the Iranian boxing
champion. Et Guillaume, en Iran, la condamnation à mort d'un champion de boxe local vient d'être rétablie par un tribunal révolutionnaire. Alors, pour tenter de le sauver, 20 médaillés olympiques publient ce mardi une lettre ouverte.
Il s'appelle Mohammad Javad Vafai Sani. Il a aujourd'hui 30 ans. Cela fait 6 ans qu'il croupit dans les couloirs de la mort en Iran, arrêté pour avoir pris part à des manifestations pro-démocratie en 2019. Il a subi l'isolement, la torture, plusieurs procès irréguliers, accusé d'appartenir à un mouvement séditieux. Sa condamnation, elle avait été annulée, mais des juges à Mashhad, là où il est emprisonné, en ont décidé autrement. Son cas émeut le monde du sport et en réalité au-delà. Mais vous vous souvenez sans doute de Martina Navratilova, la championne de tennis, ou encore de Sharon Davis, très grande nageuse britannique. Ce sont des voix qui portent très loin. Elles appellent solennellement Téhéran à renoncer à cette peine de mort. Vafai Sani, ce champion de boxe, idole de la jeunesse, est devenu le visage d'une répression féroce qui frappe toutes les strates de la société. Depuis janvier dernier, en Iran, près de 1000 personnes ont été pendues. Les Nations Unies dénoncent une frénésie d'exécution.
A consortium of news outlets from around the world, including Frontline, have been investigating the use of the spyware called Pegasus.
Où l'on reparle de Pegasus, ce logiciel espion développé par une société israélienne. L'entreprise est rachetée par des Américains.
Une entreprise NSO placée sur liste noire par Washington et depuis en grande difficulté financière après la publication. On s'en souvient de cette enquête dont on a entendu un court extrait et qui en 2021 avait dévoilé la nature du projet Pegasus, un spyware extrêmement sophistiqué vendu par cette société israélienne à de nombreux gouvernements, officiellement pour lutter contre le terrorisme. Pegasus capable de pénétrer n'importe quel téléphone, celui d'Emmanuel Macron, celui de Jeff Bezos, utilisé sur ordre de MBS pour espionner, traquer et puis éliminer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi du Washington Post. Bref, un logiciel stratégique grâce auquel près de 50 000 reporters, responsables d'ONG, opposants, personnels politiques ont été surveillés en temps réel. Pegasus sur lequel l'ancien ambassadeur de Trump, le revoilà, Trump, ambassadeur de Trump en Israël, qui vient de mettre la main sur ce logiciel via son consortium d'investisseurs. L'objectif, sous pavillon américain, faire oublier, dit-il, les scandales. Rien n'est moins sûr dans le monde du cyber. David Friedman entend développer ses services dans la police et le renseignement américain.
11 novembre, Guillaume, 1 plus 1 et encore 1 plus 1. En fait, il n'y a que des 1 et en Chine, c'est donc la fête des célibataires.
Guan Guantie, vous avez entendu ce qu'elle a dit, la dame. Hein. Je ne sais pas si j'ai le bon accent mandarin, mais littéralement, ça veut dire fête des bâtons nus. Donc oui, que des uns qui se promènent tout nus, c'est-à-dire esselés, la fête des célibataires, pour le dire en bon français. C'est un Black Friday puissance 10 en Chine pour soigner sa solitude avec l'hiver qui vient. On fait chauffer sa carte bleue, on se réchauffe le cœur et on dépense et on consomme et on se rue sur Internet et dans les magasins. Vous en parliez hier avec votre invité. La consommation intérieure, c'est un des ressorts de l'économie chinoise en raison des tarifs de Trump. Pékin exporte beaucoup moins aux États-Unis, cherche donc à déverser ses produits en Europe. Mais on a vu avec Shein que Paris et Bruxelles entendent ériger des barrières. Donc cette année, plus que jamais, il faut regarder cette fête des célibataires avec une paire de lunettes économiques. C'est un test politique XXL pour le pouvoir qui doit penser, repenser son modèle industriel en dehors des seules exportations. Pékin scrute avec beaucoup d'appréhension son marché intérieur. Spoiler, ça sent la grimace.
Allez, merci beaucoup Guillaume Audin. Vous reviendrez demain, tous les mardis. Caroline Gillet ouvre les portes des institutions européennes. C'est Caroline au pays des 27.
France Inter, le 18-20.
Et tous les mardis, Caroline, vous ouvrez une porte ce soir. Vous êtes fascinée par la diplomatie informelle.
Oui, toutes les négociations qui ont lieu en dehors des grandes salles officielles. Et il y a une personne qui a écrit sa thèse dessus, c'est Clément Perarnaud. On l'avait entendu ici sur les questions numériques européennes. Eh bien, on s'est donné rendez-vous cette fois dans le parc du cinquantenaire, juste à côté des institutions européennes. Il y a des oiseaux qui s'éclatent au-dessus de nos têtes. Vraiment, je pense que si vous deviez être un oiseau à Bruxelles, un oiseau sociable, eh ben,
c'est
là qu'il faut aller. Et quand je le fais remarquer à Clément, pour casser la glace, un peu comme on parlerait de météo, Clément me répond ça.
Moi, je m'intéresse aux oiseaux de la commission, plutôt. Alors là, c'est ceux qui sont en retard. C'est le walk of shame de la commission.
C'est parce qu'il est 10h30.
Voilà.
Le walk of shame, la marche de la honte, c'est quand on revient du travail avec les mêmes vêtements parce qu'on n'est pas rentré chez soi la veille.
Globalement, la plupart des gens qu'on voit ici se dirigent soit vers le rond-point Schuman, soit vers les différentes représentations permanentes ou représentations d'intérêts qui sont tout autour du quartier européen.
Et la question que se pose Clément, c'est où est-ce que, dans ces différents bâtiments autour du parc, on prend véritablement les décisions à Bruxelles ?
Tout à fait.
Est-ce que c'est à la Commission ou au Conseil ? Le Conseil, rappelez-vous, c'est le bâtiment en forme d'œuf où se retrouvent les ministres parfois jusqu'à une fois par mois et les chefs d'État plusieurs fois par an.
Tout à fait. Bah, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à l'informalité dans les négociations européennes et notamment les négociations au Conseil.
Parce qu'en fait, les décisions qui sont prises par les ministres et par les chefs d'État au Conseil, elles ont été en réalité préparées et négociées par les ambassadeurs.
Tout à fait.
Qui travaillent dans les représentations permanentes.
En fait, on évalue souvent que les décisions au niveau du Conseil, elles sont prises à 85% au niveau technique, donc les groupes d'experts, et au niveau des ambassadeurs. Donc c'est en fait là où tout se joue. Et c'est là où il y a le moins de transparence et le moins de compréhension sur justement les ressorts de l'influence de ces différents négociateurs. Et donc ça a été un peu au cœur de ma thèse pendant quelques années, où je suis allé dans l'ensemble des représentations permanentes. J'ai même fini par travailler pendant 3 mois dans une des représentations pour comprendre de l'intérieur comment cela fonctionnait.
Clément a passé 3 mois à la représentation permanente du Luxembourg.
Ça m'a donné à voir toutes les formes de solidarité qui peuvent se créer, par exemple, entre deux négociateurs qui sont tout le temps assis, jour après jour, dans le groupe de travail au Conseil, l'un à côté de l'autre. En fait, tous les États en sont assis selon le même ordre. Je sais pas, les Français sont tout le temps à côté des Slovènes. Et ce qui fait que les Français et les Slovènes, jour après jour, vont apprendre à se connaître. Parce qu'ils vont mettre leurs affaires le matin, se saluer, et puis le soir, se parler au moment de la pause café. Et donc moi, c'est par exemple une des dimensions de mon travail, c'était de voir dans quelle mesure cette socialisation avait un impact en fait sur l'influence des États.
Et alors ici, autour du Parc du Cinquantenaire, il y a des endroits aussi imaginés pour justement renforcer cette influence ou créer des lieux d'échange informels.
Alors effectivement, là on est dans le Parc du Cinquantenaire, il y a toute une série de représentations permanentes sur l'avenue de Kortenberg. Il y a les Polonais, les Autrichiens et il y a aussi les Finlandais. Et alors, la particularité de la représentation finlandaise, c'est qu'elle accueille un sauna. Au moment où je faisais ma thèse, j'avais reçu une fois une invitation pour discuter du budget pluriannuel européen. Donc ça montre en fait dans quelle mesure la plupart des négociations en fait se tiennent pas nécessairement dans ces grandes salles iconiques Conseil de l'Union européenne. Simplement parce que c'est trop difficile. Comment est-ce qu'on fait pour parler tous à 27 ? L'ensemble de la négociation se passe en périphérie, soit juste aux abords de la salle, ou plutôt, le plus souvent, dans des bureaux, dans des cafés, dans des restaurants et dans des saunas à la représentation finlandaise.
Peut-on vous laisser ici, chers auditeurs, chères auditrices, le temps d'intégrer ces informations et de vous créer des images mentales ? Les fonctionnaires européens, réunis en maillot ou tout nus, l'histoire ne le dit pas, en train de négocier, perlant de sueur, dans une structure en bois. Bon, Clément n'était pas allé dans le sauna.
Ces ressorts en fait, de l'influence, ils sont souvent un peu ignorés parce que très très difficile à étudier, mais ils sont absolument importants. En fait, tous les États n'allouent pas le même nombre de négociateurs à Bruxelles, alors même que tous les États ont le même nombre de dossiers à traiter. Donc il y a un nombre fixe de législations en cours ou de décisions à prendre, mais on va se retrouver avec les Français à presque une centaine de négociateurs à Bruxelles, alors que des petits États comme Chypre ou Malte en auront péniblement 20 ou 30. Et donc ça, déjà, ça crée un écart de pouvoir assez manifeste, parce que ces pauvres négociateurs ne sont pas en capacité de suivre 7 ou 8 négociations en même temps, tout en étant influents. Là, on peut penser aux Néerlandais. Pour moi, ça a été vraiment le cas d'école où on a un État, on va dire une puissance relativement moyenne au niveau européen, qui boxe bien au-dessus de sa catégorie.
Ils arrivent à influencer les décisions au-delà de la taille de leur pays et de leur influence supposée, quoi.
Exactement. Ça se traduit par une position néerlandaise qui est adoptée directement après la proposition de la Commission, donc au tout début du processus législatif, alors que d'autres États, on peut penser aux Allemands, sont bien plus lents.
Je lui demande évidemment qui sont les pires. Il répond poliment et timidement que la représentation italienne avait du mal à se faire entendre quand il étudiait tout ça.
Et donc, on peut se retrouver des fois dans une salle où, je ne sais pas, tel négociateur va être en train de faire son shopping en ligne ou en train de réserver ses billets d'avion pendant qu'un point est abordé par quelqu'un d'autre de l'autre côté de la salle, parce que c'est des immenses salles, imaginez, à 27. Certains négociateurs ne sont pas nécessairement motivés par leur travail, ils ne sont pas assez payés, ils pensent déjà à retourner dans leur, à la capitale. Il y a des niveaux d'investissement qui fluctuent en fonction de l'importance politique du sujet, mais même en fonction des personnes en question.
Voilà, merci à Clément. Je mets des liens sur la page de la chronique si vous voulez aller plus loin.
Allez, merci beaucoup Caroline. À mardi prochain.